Habituellement, quand on parle d'un diagnostic médical, on s'attend toujours à une précision quasi chirurgicale, quoi.
Ouais, c'est presque de l'ingénierie à ce niveau-là.
C'est ça. On se casse le bras, on passe à la radio, et hop, le cliché affiche une belle ligne blanche, bien nette, sur fond noir.
Et le médecin n'a plus qu'à pointer du doigt et dire que le problème est exactement là.
Voilà. Et enfin, notre esprit adore ce genre de situation. On aime ce qui est visible, ce qui peut être facilement catégorisé, diagnostiqué et...
Et par conséquent, réparé.
Absolument. Cette clarté binaire, elle est rassurante. Mais dès qu'on quitte ce monde clinique pour entrer dans le domaine de la transformation humaine, ou disons, de l'effondrement moral d'une société entière...
Ah ben là, la machine à rayon X ne fonctionne plus du tout. L'image devient complètement floue.
C'est clair. On se retrouve face à un paysage trouble où, en fait, les symptômes d'une crise ressemblent parfois à de la mauvaise foi ou juste à un échec pur et simple. En tant que lectrice de ces dynamiques, je suis frappée par cette complexité.
Et c'est précisément dans ces zones de turbulence que la notion de diagnostic devient fascinante. Quand une nation perd tous ses repères, identifier la vraie racine de la fracture exige une lecture beaucoup plus subtile.
Et c'est exactement là que notre exploration d'aujourd'hui prend tout son sens. On plonge dans l'analyse approfondie du docteur John Oswalt sur un texte antique d'une densité incroyable.
Les fameux derniers chapitres du livre d'Ésaïe, oui. Les chapitres 60 à 66.
Tout à fait. Et l'objectif de cette analyse, c'est de comprendre comment ce texte aborde la perte totale de pouvoir matériel, la justice et la refondation d'une identité. Et pour ceux qui nous écoutent, pas besoin d'être un érudit pour suivre. On parle de schémas de pensée humains, universels.
Des schémas sur l'espoir, l'échec, la rédemption.
Mais avant même de décortiquer les versets, il y a la méthode de lecture. Oswald dit qu'on ne peut pas lire ça comme un essai linéaire. Il parle d'une symphonie, c'est bien ça?
C'est l'image parfaite, oui. Si on lit ce texte avec notre loïque moderne du genre A mène à B qui mène à C, on passe complètement à l'architecture. Ésaïe fonctionne avec de grands motifs thématiques.
Comme un compositeur qui cache ses thèmes.
Exactement. Prenez le fameux motif saint, saint, saint du chapitre 6. C'est comme un éclat de cuivre dans une symphonie. Ça éclate, ça disparaît sous la surface pendant des chapitres entiers et ça revient en force à la fin.
Ok, décortiquons tout ça. Parce qu'au-delà de la symphonie, l'analyse parle de la structure vertigineuse des chapitres 56 à 66. Le texte évoque un chiasme.
Ouais, le chiasme hébraïque, c'est fondamental ici.
Donc si je comprends bien, ce n'est pas une histoire qui garde le suspense pour la dernière page. C'est une structure en miroir, non?
C'est exactement ça. Vous avancez de A à B, puis à C, et ensuite le texte fait marche arrière, reflétant C, puis B, puis A.
En préparant ça, je me disais que c'est un peu comme la construction d'un film de Christopher Nolan.
Ah, intéressant. Comme lequel?
Comme Inception, par exemple. Les personnages descendent dans des couches de rêves successives et le moment clé, l'idée fondatrice, se trouve tout au fond, au milieu du film. Ensuite, on passe le reste du temps à remonter symétriquement ces mêmes niveaux.
C'est une excellente analogie, franchement. Ce qui est fascinant ici, c'est qu'en appliquant cette grille, Oswald montre que les couches extérieures parlent de frustration et d'injustice. Mais le niveau de rêve le plus profond...
Le centre absolu du chiasme.
Voilà. Le trésor enfoui dans les chapitres 60 à 62, c'est cette idée incroyable que toutes les nations, les gentils, vont venir voir la gloire de Dieu.
Mais attendez, le mot « gloire » m'a fait tiquer. Aujourd'hui, quand on parle de spiritualité, on imagine un truc très éthéré, une brume mystique, une petite chaleur intérieure, un truc abstrait, quoi.
Ouais, notre vision moderne est très déconnectée de la réalité biblique. Le mot hébreu au centre de ce chiasme, c'est « kabod ». Et « kabod », ça veut littéralement dire « le poids, la lourdeur ».
Donc on est loin du petit nuage de fumée ?
Très loin. C'est la substance la plus solide de l'univers. Pour nous, le monde matériel, avec ses guerres et sa politique, est réel. Et le spirituel est abstrait. Le texte dit l'inverse. C'est notre politique qui est éphémère. Le kabod, c'est le roc inébranlable.
D'accord, mais il y a un problème flagrant juste avant d'arriver à ce centre lumineux. Si le but, c'est que le monde soit attiré par cette gloire, comment on explique l'état du peuple censé la porter?
Ah, le fameux chapitre 59.
C'est un cauchemar absolu. Les gens tâtonnent comme des aveugles le long d'un mur, ils trébuchent en plein midi, ils grognent comme des ours. C'est presque comique, mais c'est tragique en fait. C'est pas juste un dérapage.
Non, c'est un effondrement cognitif et moral total. Une nation qui a perdu sa boussole.
Et qui est incapable de la retrouver.
Absolument. Trébucher en plein midi, c'est la perte de discernement ultime. La lumière est là, mais ils sont aveugles.
Et c'est là que je bloque. Au chapitre 60, paf, changement de décor. Lève-toi, brille, car ta lumière arrive. Mais si le chapitre 59, c'est le désastre, d'où sort cette lumière? Ils se sont soudainement mis à faire des efforts?
Eh bien non, justement. C'est notre réflexe moderne de penser que face à un problème, on trouve une solution interne par l'effort.
Genre un grand comité d'éthique qui aurait miraculeusement fonctionné du jour au lendemain?
C'est ça. Mais Oswald montre que la lumière est un pur cadeau. La fin du chapitre 59 explique qu'un rédempteur, un guerrier divin, a vu qu'aucun humain ne pouvait intercéder. Il est intervenu lui-même.
Donc, la lumière vient de l'extérieur.
Levé sur toi. Pas en toi, par tes propres efforts.
D'ailleurs, j'ai lu qu'Oswald critique pas mal l'étude biblique académique moderne là-dessus, non ?
Oui, fortement. Beaucoup de chercheurs voient ce contraste brutal entre l'obscurité du 59 et la lumière du 60, et ils se disent que c'est le fruit d'un éditeur brouillon, des textes empilés au hasard.
Ce qui casse complètement la symphonie, du coup.
Totalement. Mais Oswald rejette ça. Il dit que ce contraste est intentionnel. Si la lumière venait de leur réforme sociale, ils seraient tombés dans l'orgueil et l'auto-justification.
Ah, ils auraient cru manipuler le divin.
Voilà. Chercher le divin pour son propre bénéfice ramène à l'égocentrisme. L'humilité totale est requise.
Et c'est là que ça devient vraiment intéressant sur l'identité de cette source de lumière. L'auteur d'Ésaïe a une obsession pour un titre particulier, le Saint d'Israël.
Et le mot « obsession » est faible. Sur les 31 fois où ce titre apparaît dans toute la Bible, 26 sont dans Ésaïe.
C'est sa signature, quoi. Et Oswald utilise ça pour critiquer un livre très influent, « L'idée du Saint » de Rudolf Otto.
Oui, un classique de la théologie du XXe siècle.
Si je me souviens bien, Otto décrit Dieu un peu comme une force cosmique terrifiante, le « Mysterium Tremendum ». Une séparation absolue entre nous et une puissance infinie.
C'est vrai, et cette idée de puissance terrifiante existe dans la Bible. Mais si l'on relie cela à une perspective plus large, Oswald prouve qu'Otto a oublié la moitié de l'équation.
Le caractère moral, c'est ça.
Exactement, la sainteté, c'est pas juste être une tempête cosmique intouchable. C'est une puissance infinie couplée à une éthique parfaite qui veut construire une relation intime.
C'est fou ce paradoxe. Une puissance atomique qui veut une relation tendre. Et l'évolution de la réaction des gens face à ce saint est passionnante. Au début, ils s'en moquent. Au chapitre 30, ils demandent au prophète de se taire.
Et comment Dieu répond à ce rejet ? Par une punition ?
Ben non, et c'est ça qui est beau. Il propose le repos et la grâce. Il dit que le salut est dans le calme.
Mais là où ça culmine, c'est au chapitre 37, avec Sanchérib, le roi assyrien. L'Assyrie, c'était la brutalité incarnée.
Sanchérib sous-estime complètement ce dieu, non ? Il projette sa propre soif de pouvoir tyrannique sur le divin.
Tout à fait. Il pense que la vraie puissance, c'est la destruction. Ça lui coûte son armée.
Et juste après avoir pulvérisé cette armée, ce même dieu redoutable se présente au chapitre 41 en disant « Ne crains rien, vermisseau de Jacob ». Il passe du guerrier au rédempteur maternel.
Ce qui pose la question de la méthode. Comment on restaure un peuple brisé, qualifié de vermisseau ?
Bah, le texte utilise des métaphores naturelles, des arbres. Au chapitre 1, le peuple est une forêt asséchée, prête à flamber. C'est l'autodestruction.
Et au sommet de notre chiasme, au chapitre 61, le renversement est total.
Ils deviennent des chênes de la justice. La beauté au lieu des cendres, c'est magnifique. Mais un chêne, ça prend du temps à pousser.
C'est le point clé de la croissance organique. Oswald rappelle d'ailleurs que c'est ce passage précis qu'a lu Jésus au baptême. Et Oswald réfute l'idée, l'hérésie de l'adoptionnisme, selon laquelle Jésus serait devenu divin à ce moment-là.
L'onction était juste une confirmation de sa mission, c'est ça ?
Oui, la mission de prêcher aux pauvres, de guérir les cœurs brisés par le péché, absorber la douleur du monde jusqu'au vendredi saint.
Absorber la douleur pour redonner la beauté. Mais pour que le peuple originel accepte cette vocation de médiateur, il a fallu passer par le traumatisme de l'exil, non ?
Obligatoirement. Avant l'exil, Israël voulait un monarque, une armée permanente.
Ils voulaient imposer leur propre gloire matérielle, jouer au même jeu que les Assyriens.
Exactement. L'exil détruit tout. Ils perdent le pouvoir militaire.
Ce qui m'amène à une question analytique forte. Si un peuple perd sa nation, son armée et son roi, comment est-ce qu'on peut considérer ça comme une victoire ?
Eh bien, ça demande un changement de paradigme complet.
J'avais pensé à une analogie. Imaginez une grande multinationale ultra-agressive, obsédée par la domination du marché. Et soudain, faillite totale. Tout s'écroule.
La fin de l'illusion de puissance.
Voilà. Et au milieu des décombres, les fondateurs réalisent que leur véritable vocation n'était pas d'écraser la concurrence, mais de devenir une fondation à but non lucratif pour aider les autres. La faillite matérielle les oblige à trouver leur utilité profonde.
C'est une excellente illustration. C'est l'essence même du médiateur. Le renoncement au pouvoir matériel coercitif, c'est la condition sine qua non pour devenir une lumière pour les nations. Vous ne pouvez pas offrir la grâce si vous tenez une épée.
Alors qu'est-ce que tout cela signifie au quotidien ? Parce qu'on pourrait juste s'asseoir et ne rien faire, puisque tout est grâce, mais le texte associe toujours deux mots, le salut et la justice.
La fameuse poésie hébraïque, oui. Les synonymes jumelés.
C'est indissociable. Le salut permet d'afficher la justice. Mais on ne peut pas vivre cette justice sans ce salut préalable.
Et Oswald utilise une métaphore architecturale brillante, tirée du texte hébreu. Tu appelleras tes murs salut et tes portes louanges.
Développons ça. Une maison sans murs, ça n'existe pas. Les murs, c'est le salut. C'est statique, ça protège, ça sécurise.
Mais si vous n'avez que des murs, vous vivez dans un bunker. C'est l'entre-soi total, la prison arrogante.
Et c'est là qu'entre les portes, la louange. C'est dynamique. Ça détermine comment on accueille l'extérieur, comment on interagit avec le monde.
Cela soulève une question importante sur la théologie de la justification. Oswald explique que cette image détruit l'idée qu'on peut construire les murs soi-même, par ses bonnes œuvres.
Les murs sont un don.
Oui, mais elle détruit aussi l'idée cynique de la grâce à bon marché. L'idée que, puisqu'on est pardonné et en sécurité derrière les murs, notre comportement à l'intérieur n'a plus aucune importance.
Ah oui, genre on peut saccager la maison parce que l'assurance est payée.
Exactement, le texte refuse ça. La justification produit un vrai changement éthique.
Et ce changement, l'apogée de cette transformation, ça se termine par quelque chose de très intime, des nouveaux noms. Le peuple n'est plus appelé « délaissé », mais « Hephzibah », ce qui veut dire « mon plaisir est en elle ».
Un changement de nom dans le monde antique, c'est un changement de destinée. C'est une nouvelle création.
J'ai adoré l'anecdote personnelle d'Oswald là-dessus. Il raconte que sa femme cherchait un prénom pour leur fille et a proposé Betsy. Et lui, instinctivement, a dit non, parce que Betsy, c'était le nom de leur vache à la ferme quand il était petit.
C'est très drôle et c'est tellement vrai psychologiquement.
On ne veut pas associer une nouvelle beauté à une vieille identité abîmée ou ridicule. Dieu ne recycle pas. Il donne un nom vierge, chargé de sens intime, une couronne de beauté.
Ce qui boucle parfaitement notre chiasme. On part d'un peuple aveugle, obsédé par son armée, pour arriver à une communauté transformée qui attire par son caractère moral.
Et franchement, ça laisse songeur quand on regarde notre époque. Si, dans ces textes antiques, la véritable transformation exigeait l'abandon total des armées permanentes et des monarchies mondaines pour devenir des médiateurs de grâce, on est en droit de se poser une sacrée question.
Laquelle ?
Quelles sont les armées permanentes, les sécurités illusoires de notre société moderne, qui doivent encore s'effondrer pour que surgisse enfin une véritable clarté morale ? C'est une question vertigineuse pour clore cette analyse.
Et c'est une réflexion qui mérite qu'on s'y attarde longuement.